Hé, madame, dit-il violemment, cette esclave vaut mieux que vous. Par son intelligence, elle a décuplé la fortune de son mari, tandis que vous, au contraire. Depuis 12 ans qu'ils étaient mariés, Jean Soulet osait, pour la première fois, lever la tête en face de sa femme. Eut-il honte de ce crime de lèse-majesté, ou comprit-il qu'une phrase pareille allait creuser un abîme infranchissable? Mais de ton aussitôt, s'agenouilla devant le lit très bas, avec cette tendresse rieuse que l'on emploie pour faire entendre aux enfants. « Ma petite Martha, je t'en prie, lève-toi, habille-toi, c'est pour toi-même que je te le demande, pour ton luxe, pour ton bien-être. Que deviendrais-tu si par un caprice, un méchant coup de tête, nous allions nous trouver réduits à la misère ?» Ce mot de « misère » ne représentait absolument rien à la Levantine. On pouvait en parler devant elle comme de la mort devant les tout-petits. Elle ne s'en émouvait pas, ne sachant pas ce que c'était. Parfaitement entêtée d'ailleurs à rester au lit de sa décision, elle alluma une nouvelle cigarette à celle qui venait de se finir, et pendant que le pauvre nabab entourait sa petite femme chérie d'excuses, de prières, de supplications, lui mettant un diadème de perles 100 fois plus beau que le sien si elle voulait venir, elle regardait monter au plafond peint la fumée assoupissante, s'en enveloppait comme d'un imperturbable calme. À la fin, devant ce refus, ce mutisme, ce front où il sentait la barre d'un entêtement obstiné, Jean Soulet débrida sa colère, se redressa de toute sa hauteur. « Allons, dit-il, je le veux !» Il se tourna vers les négresses. « Habillez votre maîtresse, tout de suite !» Et le rustre qu'il était au fond, le fils du cloutier méridional se retrouvant dans cette crise qui le remuait tout entier, il rejeta les courtines d'un geste brutal et méprisant, envoyant à terre les innombrables fanfreluches qu'elles portaient, et forçant la Levantine demi-nue à bondir sur ses pieds, avec une promptitude étonnante chez cette massive personne. Elle rugit sous l'outrage, serra les plis de sa dalmatique contre son buste de nabote, envoya son petit bonnet de travers dans ses cheveux écroulés et se mit à invectiver son mari. « Jamais, tu m'entends bien, jamais, tu m'étrennerais plutôt chez cette... » L'ordure sortait à flot de ses lèvres lourdes, comme d'une bouche d'égout. Jean Soulet pouvait se croire dans un des affreux bouges du port de Marseille, assistant à une querelle de filles et de nervis, ou encore à quelques disputes en plein air entre génoises, maltaises et provençales glanant sur le quai autour des sacs de blé qu'on décharge et s'injuriant à quatre pattes dans des tourbillons de poussière d'or. C'était bien la Levantine de Port-de-Mer, l'enfant gâté, abandonné, qui le soir de sa terrasse, ou du fond de sa gondole, a entendu les matelots s'injurier dans toutes les langues des mers latines et qui a tout retenu. Le malheureux la regardait, effaré, atterré de ce qu'elle le forçait d'entendre, de sa grotesque personne écumant et râlant. « Non, je n'irai pas ! Non, je n'irai pas !» Et c'était la mère de ses enfants, une demoiselle Afchin. Soudain, à la pensée que son sort était entre les mains de cette femme, qu'il ne lui en coûterait qu'une robe à mettre pour le sauver et que l'heure fuyait, que bientôt il ne serait plus temps, une bouffée de crime lui monta au cerveau, décomposa tous ses traits. Il marcha droit sur elle, les mains ouvertes et crispées d'un air si terrible que la fille Afchin, épouvantée, se précipita en appelant vers la porte où le masseur venait de sortir. « Aristide !» Ce cri, cette voix, cette intimité de sa femme avec le subalterne, Jean Soulet s'arrêta, dégrisé de sa colère, puis, avec un geste de dégoût, s'élança dehors en jetant les portes, plus pressé encore de fuir le malheur et l'horreur qu'il devinait dans sa maison que d'aller chercher là-bas le secours qu'on lui avait promis. Un quart d'heure après, il faisait son entrée chez Emmerlingue, envoyait en entrant un geste désolé au banquier et s'approchait de la baronne en balbutiant la phrase toute faite qu'il avait entendue répéter si souvent le soir de son bal, sa femme très souffrante, désespérée de n'avoir pu. Elle ne lui laissa pas le temps d'achever, se leva lentement, se déroula fine et longue couleuvre dans les draperies biaisées de sa robe étroite, dit sans le regarder avec son accent corrigé « Oh, je savais, je savais !» Puis changea de place et ne s'occupa plus de lui. Il essaya de s'approcher d'Emmerlingue, mais celui-ci semblait très absorbé dans sa causerie avec Maurice Trott. Alors il vint s'asseoir près de Madame Jenkins, dont l'isolement tint compagnie au sien, mais tout en causant avec la pauvre femme, aussi languissante qu'il était lui-même préoccupé, il regardait la baronne faire les honneurs de ce salon si confortable auprès de ses grandes halles dorées. On partait. Madame Emmerling reconduisait quelques-unes de ses dames, tendait son front à la vieille princesse, s'inclinait sous la bénédiction de l'évêque arménien, saluait d'un sourire les jeunes gandins à Cannes, trouvait pour chacun l'adieu qu'il fallait avec une aisance parfaite, et le malheureux ne pouvait s'empêcher de comparer cette esclave orientale, si parisienne, si distinguée au milieu de la société la plus exquise du monde, avec l'autre là-bas, l'européenne avachie par l'Orient, abrutie de tabatures qui bouffit d'oisiveté. Ses ambitions, son orgueil de mari étaient déçus, humiliés dans cette union dont il voyait maintenant le danger et le vide, dernière cruauté du destin qui lui enlevait même le refuge du bonheur intime contre toutes ses déconvenues publiques. Peu à peu le salon se dégarnissait. Les levantines disparaissaient l'une après l'autre, laissant chaque fois un vide immense à leur place. Madame Jenkins était partie, il ne restait plus que deux ou trois dames inconnues de Jean Soulet, entre lesquelles la maîtresse de maison semblait s'abriter de lui. Mais Emmerling était libre, et le nabab le rejoignit au moment où il s'esquivait furtivement du côté de ses bureaux situés au même étage, en face les appartements. Jean Soulet sortit avec lui, oubliant dans son trouble de saluer la baronne, et, une fois sur le palier décoré en antichambre, le gros Emmerling, très froid, très réservé tant qu'il s'était senti sous l'œil de sa femme, reprit une figure un peu plus ouverte. « C'est très fâcheux, » dit-il à voix basse, comme s'il craignait d'être entendu, « que Madame Jean Soulet n'ait pas voulu venir. » Jean Soulet lui répondit par un mouvement de désespoir et de farouche impuissance. « Fâcheux, fâcheux !» répétait l'autre, en soufflant et cherchant sa clé dans sa poche. « Voyons, vieux, » dit le nabab en lui prenant la main, « ce n'est pas une raison parce que nos femmes ne s'entendent pas, ça n'empêche pas de rester camarades. Quelle bonne causette, hein, l'autre jour !»« Sans doute, » disait le baron, se dégageant pour ouvrir la porte qui glissa sans bruit, montrant le haut cabinet de travail dont la lampe brûlait solitaire devant l'énorme fauteuil vide. « Allons, adieu, je te quitte, j'ai mon courrier à fermer. » « Y'a dit doum aussi, » fit le pauvre nabab, essayant de plaisanter et se servant du patois sabir pour rappeler aux vieux copains tous les bons souvenirs remués l'avant-veille. « Ça tient toujours notre visite à le marquier, le tableau que nous devons lui offrir, tu sais bien ? Quel jour veux-tu ? Ah, oui, le marquier, c'est vrai, eh bien, mais prochainement, je t'écrirai. Bien sûr, tu sais, c'est pressé. Oui, oui, je t'écrirai. Adieu. » Et le gros homme referma sa porte vivement, comme s'il avait peur que sa femme arrivât. Deux jours après, le nabab recevait un mot d'Emmerling, presque indéchiffrable sous ses petites pattes de mouche compliquées d'abréviations plus ou moins commerciales, derrière lesquelles l'ex-cantinier dissimulait son manque absolu d'orthographe. « Monche ans cam, je ne puis décide t'accompagne chez le merc, trop d'aff en ce môme, d'aï v ser mieux seul pour cause. « Vas-y, carrément, on tâte, R, cassette, tous les maths, de 8 à 10. À toi, corps, M. » Au-dessous, en post-scriptum, une écriture très fine aussi, mais plus nette, avait écrit très lisiblement « Un tableau religieux autant que possible. » Que penser de cette lettre ? Y avait-il bonne volonté réelle ou des fêtes polies ? En tout cas, l'hésitation n'était plus permise, le temps brûlait. Jean Soulet fit donc un effort courageux, car le merquier l'intimidait beaucoup et se rendit chez lui un matin. Notre étrange Paris, dans sa population et ses aspects, semble une carte d'échantillons du monde entier. On trouve dans le marais des rues étroites à vieilles portes brodées, vermiculées, à pignons avançants, à balcons en moucharabie qui vous font penser à l'antique Heidelberg. Le faubourg Saint-Honoré, dans sa partie large autour de l'église russe au minaret blanc, aux boules d'or, évoque un quartier de Moscou. Sur Montmartre, je sais un coin pittoresque et encombré, qui est de l'Alger pur. Des petits hôtels bas et nets, derrière leur entrée à plaques de cuivre en leur jardin particulier, s'alignent en rue anglaise entre Neuilly et les Champs-Élysées, tandis que tout le chevet de Saint-Sulpice, la rue Férou, la rue Cassette, paisible dans l'ombre des grosses tours, inégalement pavées, aux portes à marteaux, semble détaché d'une ville provinciale et religieuse. Tours ou Orléans, par exemple, dans le quartier de la cathédrale et de l'évêché, où de grands arbres dépassant les murs se bercent au bruit des cloches et des répons. C'est là, dans le voisinage du cercle catholique dont il venait d'être nommé président honoraire, qu'habitait maître le merquier, avocat, député de Lyon, homme d'affaires de toutes les grandes communautés de France, et que Hémerlingue, par une pensée bien profonde chez ce gros homme, avait chargé des intérêts de sa maison. En arrivant vers 9 heures devant un ancien hôtel dont le rez-de-chaussée se trouvait occupé par une librairie religieuse endormie dans son odeur de sacristie et de papier grossier à imprimer des miracles, en montant ce large escalier blanchi à la chaux comme celui d'un couvent, Jean Soulet se sentit pénétré par cette atmosphère provinciale et catholique, où revivaient pour lui les souvenirs d'un passé méridional, les impressions d'enfance encore intactes et fraîches, grâce à son long dépaysement, et que le fils de Françoise n'avait eu, depuis son arrivée à Paris, ni le temps ni l'occasion de renier. L'hypocrisie mondaine devant lui avait revêtu toutes ses formes, essayé tous ses masques, excepté celui de l'intégrité religieuse. Aussi se refusait-il à croire à la vénalité d'un homme vivant en un pareil milieu. Introduit dans l'antichambre de l'avocat, vaste parloir aux rideaux de mousseline empesés fins comme des surplis, ayant pour seul ornement au-dessus de la porte une grande et belle copie du Christ mort du Tintoret, son incertitude et son trouble se changèrent en convictions indignées. Ce n'était pas possible, on l'avait trompé sur le Mercier. Il y avait là sûrement une médisance audacieuse, comme Paris est si léger à en répandre, ou peut-être lui tendait-on un de ces pièges féroces contre lesquels il ne faisait que trébucher depuis 6 mois. Non, cette conscience farouche renommée au palais et à la chambre, ce personnage austère et froid, ne pouvait être traité comme ces gros pachas ventrus à la ceinture lâche, aux manches flottantes si commodes pour recevoir les bourses de sequins. Ce serait s'exposer à un refus scandaleux, à la révolte légitime de l'honneur méconnu, que d'essayer de tels moyens de corruption. Le nabab se disait cela, assis sur le banc de chêne qui courait autour de la salle, lustré par les robes de serge et le drap rugueux des soutanes. Malgré l'heure matinale, plusieurs personnes attendaient ainsi que lui. Un dominicain se promenant à grands pas, figure ascétique et sereine, deux bonnes sœurs enfoncées sous la cornette et grenant de longs chapelets qui leur mesuraient la tente, des prêtres du diocèse lyonnais reconnaissables à la forme de leur chapeau, puis d'autres gens de mine recueillie et sévère installés devant la grande table en bois noir qui tenait le milieu de la pièce et feuilletant quelques-uns de ces journaux édifiants qui s'impriment sur la colline de Fourvière, l'écho du purgatoire, le rosier de Marie, et donnent en prime aux abonnés d'un an des indulgences pontificales, des rémissions de peines futures. Quelques mots à voix basse, une toux étouffée, le léger susurrement de la prière des bonnes sœurs rappelaient à Jean Soulet la sensation confuse et lointaine d'heures d'attente dans un coin de l'église de son village, autour du confessionnal, aux approches des grandes fêtes. Enfin, son tour vint de passer, et s'il avait pu lui rester encore un doute sur Maître le Mercier, il ne douta plus en voyant ce grand cabinet simple et sévère, un peu plus orné cependant que l'antichambre, dans lequel l'avocat encadrait l'austérité de ses principes et de sa maigre personne, longue, voûtée, étroite aux épaules, serrée par un éternel habit noir trop court de manche et d'où sortaient 2 poignets noirs, carrés et plats, 2 bâtons d'encre de Chine, hiéroglyphes de grosses veines. Le député clérical avait, dans le teint blafard du Lyonnais moisi entre ses 2 rivières, une certaine vie d'expression qu'il devait à son regard double, tantôt étincelant, mais impénétrable derrière le verre de ses lunettes, le plus souvent vif, méfiant et noir par-dessus ses mêmes lunettes, et cerné de l'ombre rentrante que donne à l'arcade sourcilière l'œil levé, la tête basse. Après un accueil presque cordial en comparaison du froid salut que les 2 collègues échangeaient à la chambre, un « je vous attendais » où se glissait peut-être une intention, l'avocat montra au nabab le fauteuil près de son bureau, signifia au domestique béat et tout de noir vêtu, non point de serrer la haie avec la discipline, mais de ne plus venir que quand on le sonnerait. Rangea quelques papiers épars, après quoi, ses jambes croisées l'une sur l'autre, s'enfonçant dans son fauteuil avec le ramassement de l'homme qui se dispose à écouter, qui devient tout oreille, il mit son menton dans sa main et resta là, les yeux fixés sur un grand rideau de reps vert tombant jusqu'à terre en face de lui. L'instant était décisif, la situation embarrassante, mais Jean Soulet n'hésita pas. C'était une de ses prétentions à ce pauvre nabab que de se connaître en homme aussi bien que Mora. Et ce flair qui, disait-il, ne l'avait jamais trompé, l'avertissait qu'il se trouvait en ce moment devant une honnêteté rigide et inébranlable, une conscience en pierre dure à l'épreuve du pic et de la poudre. Ma conscience. Il changea donc subitement son programme, jeta les ruses, les sous-entendus où s'empêtrait sa franche et vaillante nature, et, la tête haute, le cœur découvert, tint à cet honnête homme un langage qu'il était fait pour comprendre. « Ne vous étonnez pas, mon cher collègue, » sa voix tremblait, mais elle s'assura bientôt dans la conviction de sa défense. « Ne vous étonnez pas si je suis venu vous trouver ici au lieu de demander simplement à être entendu par le troisième bureau. Les explications que j'ai à vous fournir sont d'une nature tellement délicate et confidentielle qu'il m'eût été impossible de les donner dans un lieu public devant mes collègues assemblés. » Maître Le Mercier, par-dessus ses lunettes, regarda le rideau d'un air effaré. Évidemment, la conversation prenait un tour imprévu. « Le fond de la question, je ne l'aborde pas, » reprit le nabab. « Votre rapport, j'en suis sûr, est impartial et loyal, tel que votre conscience a dû vous le dicter. Seulement, il a couru sur mon compte d'écœurantes calomnies auxquelles je n'ai pas répondu et qui ont, peut-être, influencé l'opinion du bureau. C'est à ce sujet que je veux vous parler. Je sais la confiance dont vos collègues vous honorent, monsieur Le Mercier, et que, lorsque je vous aurai convaincu, votre parole suffira sans que j'aie besoin d'étaler ma tristesse devant tous. » Vous connaissez l'accusation. Je parle de la plus terrible, de la plus ignoble. Il y en a tant qu'on pourrait s'y tromper. Mes ennemis ont donné des noms, des dates, des adresses. Eh bien, je vous apporte les preuves de mon innocence. Je les découvre devant vous seul, car j'ai de graves raisons pour tenir toute cette affaire secrète. » Il montra alors à l'avocat une attestation du consulat de Tunis que pendant 20 ans il n'avait quitté la principauté que 2 fois. La première pour aller retrouver son père mourant au bourg Saint-Andéol, la seconde pour faire avec le bey une visite de 3 jours à son château de Saint-Romain. Comment se fait-il qu'avec un document aussi positif entre les mains, je n'ai pas cité mes insulteurs devant les tribunaux pour les démentir et les confondre? Hélas, monsieur, il y a dans les familles des solidarités cruelles. J'ai eu un frère, un pauvre être, faible et gâté, qui a roulé longtemps dans la boue de Paris, y a laissé son intelligence et son honneur. Est-il descendu à ce degré d'abjection où l'on m'a mis en son nom? Je n'ai pas osé m'en convaincre. Ce que j'affirme, c'est que mon pauvre père, qui en savait plus que personne à la maison là-dessus, m'a dit tout bas en mourant « Bernard, c'est l'aîné qui me tue. Je meurs de honte, mon enfant. » Il fit une pause nécessaire à son émotion suffoquée, puis « Mon père est mort, maître Le Mercier, mais ma mère vit toujours. Et c'est pour elle, pour son repos, que j'ai reculé. Que je recule encore devant le retentissement de ma justification. En somme, jusqu'à présent, les souillures qui m'ont atteint n'ont pu rejaillir jusqu'à elle. Cela ne sort pas d'un certain monde, d'une presse spéciale dont la bonne femme est à 1000 lieues. Mais les tribunaux, un procès, c'est notre malheur promené d'un bout de la France à l'autre, les articles du Messager reproduits par tous les journaux, même ceux du petit pays qu'habite ma mère. La calomnie, ma défense, ces 2 enfants couverts de honte du même coup, le nom, seule fierté de la vieille paysanne, a tout jamais sali. Ce serait trop pour elle, il y aurait de quoi la tuer. Et vrai, je trouve que c'est assez d'un. Voilà pourquoi j'ai eu le courage de me taire, de lasser, si je le pouvais, mes ennemis par le silence. Mais j'ai besoin d'un répondant vis-à-vis de la Chambre. Je veux lui ôter le droit de me repousser pour des motifs déshonorants. Et puisqu'elle vous a choisi pour rapporteur, je suis venu tout vous dire comme à un confesseur, à un prêtre, en vous priant de ne rien divulguer de cette conversation, même dans l'intérêt de ma cause. Je ne vous demande que cela, mon cher collègue, une discrétion absolue. Pour le reste, je m'en rapporte à votre justice et à votre loyauté. » Il se levait, allait partir, et Le Mercier ne bougeait pas, interrogeant toujours la tenture verte devant lui, comme s'il y cherchait l'inspiration de sa réponse. « Enfin, il sera fait comme vous le désirez, mon cher collègue. Cette confidence restera entre nous. Vous ne m'avez rien dit, je n'ai rien entendu. » Le nabab, encore tout enflammé de son élan qu'il appelait, semblait-il, une réponse cordiale, une poignée de main frémissante, se sentit saisi d'un étrange malaise. Cette froideur, ce regard absent, le gênait tellement qu'il gagnait déjà la porte avec le gauche salut des importuns. Mais l'autre le retint. « Attendez donc, mon cher collègue, comme vous êtes pressé de me quitter. Encore quelques instants, je vous prie. Je suis trop heureux de m'entretenir avec un homme tel que vous, d'autant que nous avons plus d'un lien commun. Notre ami Emerling m'a dit que vous vous occupiez beaucoup de tableaux, vous aussi. » Jean Soulet tressaillit. Ces 2 mots, Emerling, tableau, se rencontrant dans la même phrase et si inopinément, lui rendait tous ses doutes, toutes ses perplexités. Il ne se livra pas encore cependant, et laissa le merquier poser les mots l'un devant l'autre en tâtant le terrain pour ses avances trébuchantes. On lui avait beaucoup parlé de la galerie de son honorable collègue. Serait-ce indiscret de solliciter la faveur d'être admis à... « Comment donc, mais je serais trop honoré, dit le nabab, chatouillé dans le point le plus sensible, parce qu'il avait été le plus coûteux de sa vanité. » Et, regardant autour de lui les murs du cabinet, il ajouta d'un ton connaisseur, « Vous aussi, vous possédez quelques beaux morceaux. »« Oh !» fit l'autre modestement, « à peine quelques toiles. C'est si cher aujourd'hui la peinture. C'est un goût si onéreux à satisfaire, une vraie passion de luxe, une passion de nabab. » dit-il en souriant, avec un coup d'œil furtif par-dessus ses lunettes. C'étaient deux joueurs prudents face à face. Jean Soulet, seulement un peu dérouté dans cette situation nouvelle, où il lui fallait se garer, lui qui ne savait que les coups d'audace. « Quand je pense, murmura l'avocat, que j'ai mis 10 ans à meubler ces murs et qu'il me reste encore tout ce panneau à remplir. » En effet, à l'endroit le plus apparent de la haute cloison, était une place vide, évacué plutôt, car un gros clou doré près du plafond montrait la trace visible, presque grossière, du piège tendu au pauvre naïf, qui s'y laissa prendre sottement. « Mon cher monsieur le merquier, dit-il d'une voix engageante et bon enfant, j'ai justement une vierge du Tintoret à la mesure de votre panneau. » Impossible de rien lire dans les yeux de l'avocat, réfugié cette fois sous leur abri miroitant. « Permettez-moi de l'accrocher là, en face de votre table. Cela vous donnera l'occasion de penser quelquefois à moi. »« Et d'atténuer les sévérités de mon rapport, n'est-ce pas, monsieur ?» s'écria le merquier, formidable et debout la main sur la sonnette. « J'ai vu bien des impudeurs dans ma vie, jamais rien de pareil à celle-là. Des offres semblables, à moi, chez moi ?»« Mais, mon cher collègue, je vous jure, reconduisez !» dit l'avocat au domestique patibulaire qui venait d'entrer. Et, du milieu de son cabinet dont la porte restait ouverte, devant tout le parloir où les patenôtres se taisaient, il poursuivit Jean Soulet, qui tendait le dos et se hâtait en balbutiant vers la sortie de ses paroles foudroyantes. « C'est l'honneur de toute la chambre que vous venez d'outrager dans ma personne, monsieur. Nos collègues en seront informés aujourd'hui même, et ce grief de plus se joignant à d'autres, vous apprendrez à vos dépens que Paris n'est pas l'Orient et qu'on n'y pratique pas comme là-bas le marchandage et le trafic honteux de la conscience humaine. » Puis, après avoir chassé le vendeur du temple, l'homme juste referma sa porte et, s'approchant du mystérieux rideau vert, dit d'un ton qui sortait doucereux de sa feinte colère, « Est-ce bien cela, baronne Marie ?